Alors, nous sommes dans notre suite de développement du cours de Kabbalah. Et dans la Kabbalah, il y a une notion qui s'appelle le Kav. Vous vous rappelez, le Kav, c'est en réalité le sens. Le sens, pas seulement de ce que nous sommes en train de faire, mais le sens de la vie tout entière qui n'est pas encore commencée. Je vous rappelle que nous sommes à la racine même de la création du monde, avant même que le monde ne soit. Et donc, il y a tout un processus de préparation pour faire apparaître la création. On a appelé ça le Tzimtzoum. Et dans ce Tzimtzoum, il a été laissé un espace vide de lumière. Cet espace vide de lumière est nécessaire pour justement contenir la lumière, mais cette fois-ci d'une manière appréhendable. Autrement dit, avant le Tzimtzoum, la lumière était tellement forte qu'il n'y a de place pour aucun être, à part lui, béni soit-il. Donc la contraction, qu'on appelle donc le Tzimtzoum, est une contraction de cette apparence de lumière pour permettre à autrui l'existence. L'autrui en question, c'est le monde avec toutes les créatures qui vont y être placé. Pour que les créatures puissent vivre dans ce grand vide, il faut bien entendu une lumière divine. On ne peut pas vivre sans cette lumière divine qui nous fait vivre. Or, cette lumière divine, étant donné qu'elle ne revient pas de sa pleine puissance, elle va revenir, mais néanmoins, son retour va se faire par un faisceau délicat de lumière qui va permettre l'accès à cette lumière, la perception de cette lumière. Non seulement il va y avoir un retour avec ce faisceau de lumière, mais ce faisceau va être mesuré. Et sa mesure sera par rapport au réceptacle. Chaque réceptacle va mesurer, va auto-gérer, va régler sa capacité de perception de la lumière. On appelle ça les kélim. Les kélim, les ustensiles de réception, ça peut être tout. Tout dans ce monde a valeur de kli. Ça peut être un bout de papier, ça peut être un chat, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un éléphant, et ça peut être un métal, et ça peut être une planche, et ça peut être un arbre. Tout ce que je viens de vous citer, et encore plus, tous les détails qui existent dans ce monde que vous voyez tout autour de vous toute la journée, ce sont des différents ustensiles de réception, différentes qualités de réception. Et donc, la lumière divine est toujours la même, seule et unique, mais chacun de ces éléments va révéler cette même lumière d'une manière différente. Est-ce que c'est clair? Donc en réalité, les ustensiles, c'est eux qui règlent et qui gèrent l'intensité de la lumière. Voici la nouveauté. Ce n'est plus l'Éternel qui se répand avec sa lumière d'une manière infinie et démesurée, comme c'était au départ. À partir du Tzimtzoum, c'est les contenants qui vont régler l'intensité de lumière qui correspond à ce qu'ils peuvent recevoir au moment présent. Cette intensité de lumière peut évoluer. Si j'évolue mon désir de recevoir, je vais recevoir la lumière avec une intensité plus grande. C'est clair? Et donc, moralité, les ustensiles de réception ou de perception sont synonymes de volonté. Comment je définis donc un kli? Un ratson le kabel. Voilà. Le kli, c'est ma capacité et ma volonté à recevoir. Plus je veux recevoir, plus mon kli devient de plus en plus grand. Et donc, il faut apprendre à agrandir son désir de recevoir pour amplifier la lumière à l'intérieur de chaque être. Ceci s'appelle la Kabbalah. La Kabbalah, c'est donc la réception. Comment recevoir plus? Donc j'étudie la Kabbalah. Vous êtes en train d'étudier la Kabbalah. Qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, ce n'est pas juste une information que je vous donne. C'est beaucoup plus que ça. Je vous apprends à élargir votre désir de recevoir. Et donc vous changez naturellement, sans même le comprendre. Parce que votre désir de recevoir, j'y amène des éléments nouveaux, ce qui va vous chatouiller un petit peu votre désir et qui va vous demander de vouloir recevoir encore plus et connaître plus. Et c'est comme ça que vous élargissez votre être à recevoir encore un degré de lumière que vous ne pouviez pas recevoir hier et bien moins avant-hier. C'est clair? Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans notre étude, et d'une manière générale, l'humanité tout entière, eh bien, les ustensiles de réception sont de plus en plus larges, de plus en plus grands, parce que vous comprenez maintenant que la lumière divine est infinie et nous sommes en train d'aiguiser votre désir de recevoir. Et lorsque votre désir de recevoir va devenir immense et infini, eh bien, ce sera en réalité la totalité de la lumière qui remplira la Terre. C'est tout. Donc tout ce qu'on a défini par le mot Eretz, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz, Aretz, c'est ce désir de recevoir. Donc Eretz, racine, ratson. Donc Dieu a créé Shamayim, ça c'est les lumières, tout ce qui est céleste. Eretz, c'est toutes les capacités à vouloir. Voilà, toute la création en une seule phrase. On peut arrêter le cours. Merci de m'avoir écouté. En réalité, voilà, tout est là. Ça veut dire que Dieu a créé au départ une lumière et des ustensiles de réception. Et plus vous élargissez ces ustensiles de réception, ce qu'on appelle les retsonot, on a appelé ça les kelim, eh bien plus votre lumière va être bénéfique, va vous faire vivre à tel point que la lumière qui va vous traverser, si elle vous traverse convenablement, sans se heurter à des pièges, eh bien, vous devenez immortel, car c'est la lumière de la vie qui vous traverse. Et plus on est traversé par la lumière de la vie, plus nous sommes vivants. Étant donné que chez lui, béni soit-il, la mort n'existe pas, eh bien, chez celui qui reçoit sa lumière, la mort n'existe pas. Pourquoi la mort existe? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'est pas encore traversé par la pleine lumière. Mais dès que cela commencera à se réaliser, parce qu'on élargit notre keli, eh bien, on deviendra de moins en moins malade, on vivra de plus en plus longtemps, comme c'est le cas maintenant dans le monde, jusqu'au moment où on deviendra éternel. Ce qu'on appelle la résurrection des morts. Moralité, il va falloir apprendre à recevoir. Donc vous êtes à la bonne école, on apprend à recevoir ce qu'on appelle en hébreu l'ilmot Kabbalah. Apprendre la réception, c'est aussi simple que ça. Et dans cette force divine qui traverse le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une mesure. Autrement dit, c'est nous qui gérons la lumière qui nous traverse. Je répète volontairement. Le fait de gérer la lumière qui nous traverse, ça incombe que personne d'entre nous n'a le droit de râler sur rien du tout dans sa vie. Pourquoi? Parce que vous recevez exactement ce que vous êtes capable de recevoir. Pas un gramme de plus et pas un gramme de moins. Donc, si vous êtes traversé par moins de lumière, il faut vous en prendre à vous-même. C'est parce que votre keli de désir de recevoir n'est pas convenable. Arrangez-le. C'est tout. Et plus vous arrangez vos kelim, plus vous allez être traversé par cette lumière. Donc, il n'y a plus à râler contre personne. Votre plus grand ennemi, s'il y en a un, c'est vous-même. Et votre plus grand ami, c'est vous-même. Donc aimez-vous, élargissez-vous et devenez des capteurs de lumière de plus en plus larges. Vous voyez comment c'est simple? C'est très sain et très simple. Ça ne sert à rien de compliqué. Alors maintenant, on va voir comment fonctionne ce cave. Quel est donc ce cave qu'on a donc désigné par notre mesure de recevoir? Donc c'est un faisceau qui vient d'une manière mesurée. J'allais dire compter, comptabiliser. Donc il y a un chiour qui veut dire une mesure. Donc le cave, c'est une mesure. Donc, le cave ne traverse pas complètement ce ballon vide que représente le tzimtzum. Parce que s'il rentrait d'un côté et ressortait de l'autre, n'a rien fait, vous comprenez? Donc le cave va s'arrêter au milieu de ce ballon que représente le tzimtzum. Donc, et là, si ce n'est qu'il arrive, Magia, le emtsaito bilvad, il arrive au centre même de ce ballon de tzimtzum. Alors, qu'est-ce qu'il amène avec lui? Quelle est sa nouveauté? Ve'u mechadesh ba'igulim. Donc, étant donné que tout le ballon du tzimtzum, c'est un grand cercle, on appelle ça les igulim, le monde circulaire, donc la nature, qui représente un petit peu le corps du futur monde qui va être créé, eh bien, ce faisceau de lumière qui pénètre ce ballon, eh bien, va donner inyana kivunim, des sens. Il va y avoir des directions, ce qu'il n'y avait pas, puisque dans un cercle, il n'y a pas de direction. On ne peut pas dire dans le cercle, pas un cercle plat, hein, un ballon. On ne peut pas dire haut, bas, droite, gauche, devant et derrière, puisque c'est tout pareil de tous les côtés. C'est une forme tellement parfaite que tu peux t'y perdre. Tu mets une fourmi sur un ballon, elle peut mourir de mauvais sang, puisqu'elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle ne voit jamais la fin. Eh bien, c'est exactement notre monde sans la lumière divine de la Torah. On vient de fêter Yom Chag HaShavuot. Eh bien, Chag HaShavuot, c'est le don de ce faisceau de lumière qu'on appelle avec un autre mot la Torah, c'est tout. Puisque Torah veut dire aura, oraita, la lumière. Donc c'est la lumière qui pénètre notre monde circulaire. Vous voyez, c'est très simple. Et donc ça va donner un sens à notre vie. Plus ce ballon sur lequel se balade la fourmi en devenant folle, mais un sens à notre vie. Et tous ces sens-là, nechutzim, sont obligatoires et nécessaires, les chaim, atidim, les itgalot babria, pour la vie future qui va se révéler dans toute la création. Donc, Akadosh Baruch Hu crée une nature, crée un monde, crée la matrice du monde sous la forme de ce tzimtzum, mais ne laisse pas ce monde, n'abandonne pas ce monde, mais lui donne une direction. Donc, Akadosh Baruch Hu est un bienfaiteur. Il donne un sens à notre vie. Il ne nous laisse pas tourner en rond, c'est le cas de le dire, dans les cercles de la vie. Et si on n'a pas de direction de Torah dans la vie, qui s'appelle le cave, qui n'a pas cette lumière de vie, eh bien vous devenez des êtres qui tournez en rond, sans arrêt, sans aucune direction, juste vivre, manger, dormir, se réveiller le matin, sans aucun sens. Et donc la vie devient circulaire, métro, boulot, dodo, comme on disait avant. Akadosh Baruch Hu donne ce faisceau de lumière pour nous donner donc une direction. Bisrut Akav, donc grâce à ce faisceau de lumière qui va pénétrer donc le cave du Tzimtzum, Yeshnam Kaet Bechinot, il y a maintenant, à partir de ce moment-là, des qualités, Shel, Ma'ala ve'mata, on peut dire maintenant ça c'est haut et ça c'est bas. On peut dire maintenant yamin ou small, ça c'est gauche et ça c'est droit. On peut dire maintenant panim ve'achor, ça c'est devant, ça c'est derrière. Combien de directions donc le cave va donner? 6. Toutes les directions possibles et imaginables. C'est pourquoi Si vous deviez donner une lettre hébraïque au Kav, eh bien, c'est très simple, ça ressemble à un trait, donc c'est la lettre Vav. Quelle est la valeur numérique de la lettre Vav? 6, comme les 6 directions dont je viens de parler. Vous comprenez? Tout est clair, tout est simple. Donc le Kav représente la lettre Vav. Et la lettre Vav va donner une direction, va indiquer un sens à ta vie. Alors on va essayer un petit peu de développer cette notion de Kav pour ne pas le laisser seulement comme une exposition kabbalistique avec des noms. On va essayer de comprendre ce qu'il est et quel est le sens de ce Kav. Donc, Hakav Moré Alayad. On l'a dit, on le répète avec d'autres mots. Le Kav, donc ce faisceau de lumière, indique un sens, un but à atteindre. Yad. Chez les Evro, et pourquoi il faut un sens? Parce que toute la création doit avancer pour arriver à un but. Donc il y a un goal, il y a un but à toute cette création. Autrement dit, le créateur n'a pas créé un monde qui va tout simplement vivre comme une machine qui n'a aucun sens mais qui apparemment bouge sans arrêt. Non. La création du monde a un sens, elle a un rythme. Et elle a une direction à atteindre. La direction à atteindre s'appelle le messianisme. Le messianisme, c'est quoi? Mais c'est le dévoilement de la lumière divine aux créations tout entières de ce monde. Ce qui fait que nous sommes dirigés naturellement pour arriver à réaliser ce but. Et donc, au fur et à mesure qu'Akadosh Baruch Hu pénètre dans notre monde via la Torah, au fur et à mesure, il nous aide à avancer dans la vie pour devenir des capteurs de sa lumière. Et donc, il va dire au peuple d'Israël d'abord de devenir un peuple, donc il va le définir en tant que tel, parce qu'en réalité, il expliquera au peuple d'Israël que tant qu'il ne se dévoile pas en tant que peuple, eh bien, il ne peut pas avancer réellement. Alors le peuple va dévoiler ce qu'il est, un peuple. Et une fois que ce peuple est dévoilé, Dieu va l'indiquer en lui disant, tu sais, ce peuple, il a aussi un lieu géographique qui correspond à sa nature. C'est là-bas qu'il va capter sa pleine lumière. Et donc, il va diriger ce peuple vers la terre en question, la terre d'Israël. Et une fois qu'il est dirigé vers la terre d'Israël, il va dire, il faut développer encore une fois ce clic de réception, donc je vous demande de créer un royaume. Et une fois qu'il a créé ce royaume, il va dire au peuple d'Israël, il va falloir éloigner tous ceux qui dérangent la lumière divine d'y pénétrer, donc éloigner de vous les notions qui s'appellent Amalek, qui se traduisent par les doutes, qui se traduisent par les peurs, qui se traduisent par les ennemis que tu peux avoir et au niveau collectif et au niveau individuel. Et petit à petit, tu te focalises, tu te nettoies de tout ce qui dérange. Et il va nous dire en tant que peuple qu'il va falloir construire un centre spécial pour capter la lumière qu'on va appeler le Beth Amikdash. Vous comprenez comment ça marche? Il y a un seul but, une seule volonté divine, mais ça prend des dizaines d'années, des milliers d'années pour que l'humanité comprenne et petit à petit avance dans ce cave vers le but ultime. Et nous sommes donc dans ce cave lui-même. C'est nous le cave. On traverse ce cave tout en étant à l'intérieur. C'est la fameuse échelle de Jacob dans laquelle on monte, on descend, mais c'est toujours sur cette échelle, c'est toujours sur nous-mêmes, c'est ça l'histoire humaine. Et c'est pour ça que Vav est en valeur numérique 6, parce que le monde tel qu'il existe aujourd'hui ne durera que 6000 ans. Donc tout est inscrit à l'intérieur de ce même phénomène. Et on avance, et on avance. Hakav ou Akivun, donc ce faisceau, c'est la direction. Amegama, c'est le but ultime. Hatikva, c'est l'espérance, c'est l'espoir. Parce que nous avons un but, nous avons un sens à notre vie. Imaginez-vous quelqu'un qui croit en l'éternel qui a créé le monde, mais qui se dit, mais il n'y a aucun sens. Il a créé le monde, mais bon, il a lâché. Non, Celui qui a créé le monde lui a donné aussi la Torah, lui a donné aussi le Kav, lui a donné aussi un sens, un espoir, parce qu'il y a un but à toute cette création. Kav morea la uvda sheyeshna siba la bria. Donc ce Kav indique clairement qu'il y a une raison pour laquelle le monde fut créé. Veyesh mi sheomed beshoresh siba. Et non seulement il y a une raison, mais il y a un être infini qui est à la source de cette raison. Comme je l'ai dit pendant la fête de Shavuot, on ne vient pas fêter seulement le don de la Torah, on vient fêter le donneur de la Torah. N'oubliez pas qu'il n'y a pas seulement la Torah, il faut s'adresser au donneur de la Torah. D'ailleurs, les hommes se trompent et s'adressent qu'à la Torah, alors que les sages d'Israël nous ont créé des bénédictions à dire qui ne s'occupe pas seulement de la Torah, mais du donneur de la Torah. Baruch Ata Hashem noten la Torah. C'est très important. Et donc, il y a quelqu'un qui a un souci. Vedoeg she'olam achen yagia lemimusha. Et donc, il se soucie, ce même créateur, de nous avoir donné donc un sens qu'on appelle le Kav dans la Kabbalah. Vous voyez que c'est beaucoup plus large qu'une notion kabbalistique sèche. Il y a aussi une capacité à réaliser le but même de toute la création. Ce Kav, c'est la ligne. Alors voilà une nouvelle définition du Kav. La ligne. C'est comme si tu avais un appareil téléphonique, mais tu n'as pas de ligne. Ça ne sert à rien. Tu as un appareil, tu as un ordinateur, mais tu n'as pas Internet. Ça ne sert à rien. Vous avez vu tout à l'heure, le cours s'est arrêté aux deux tiers. Si tu n'as pas de ligne, eh bien, il n'y a plus de contact. Donc la ligne, c'est le contact entre le créateur et la création. Et donc cette ligne, ou Soda Neshama, c'est comme l'âme qui va donner un sens, qui va d'abord pénétrer dans le corps qu'on a appelé donc le monde circulaire. Donc le monde circulaire va être sous forme de cercle. Donc tout ce que nous avons dans notre monde, ce sont des cercles. Tout est circulaire dans notre corps, alors que l'âme représente la rectiligne, la ligne. Et donc la ligne va donner un sens au corps qui est circulaire. C'est-à-dire que Dieu va donner un sens à la vie. Ça veut dire que l'âme est venue pénétrer notre corps pour lui donner un sens, pour éduquer le corps. Donc le corps est éduqué par le maître qui s'appelle la Neshama. Et donc tous les cercles de la nature sont liés automatiquement à cette ligne de conduite qu'on appelle le Kav. Donc cette âme, la Neshama, Madricha et Tagouf, c'est elle qui va conduire comme un conducteur le corps. El Hayad, vers quoi? Vers le but Hamevukash, qui est demandé, qui est exigé par le donneur de vie. Vehakav Manche et Abria. Et donc il y a une direction conductrice qui donne un sens, qui va gérer en fait toute la vie. El Geulata, vers sa délivrance totale. Donc la délivrance, elle vient de qui? Du Kav. Donc le Kav va s'appeler Mashiach par rapport au monde. Le Kav va s'appeler messianisme. Le Kav va s'appeler le rédempteur. Le Kav va s'appeler le Goël, le Messie, le libérateur du cercle. Ok? Donc la ligne révèle et dévoile et libère toute la forme circulaire de la vie. Voilà, avec des mots, Hakavu Goalo Shela Igul, le Kav est le libérateur du cercle. Ouais, on peut même la mettre en gras, cette formulation que j'ai définie moi-même, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est ça. C'est que le trait, c'est le Goël, le libérateur du Igoul. Donc à quoi ressemble ce trait? À Kav Domé, le Melech HaMashiach. Exactement comme le roi Mashiach. Donc le roi Mashiach, qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Qu'est-ce qu'il a dans sa main? La droiture. divine. Il représente le droit divin. Il représente la direction divine. Beyachas lechol ha-metziut, et ceci par rapport à toute l'existence extérieure, superficielle, qui attend impatiemment hamamtina le mimush yehuda d'être libérée. Donc nous avons une vie qui attend d'être libérée. Nous avons une femme qui attend d'être mariée. Et c'est pour ça que les sages dans la Gemara nous disent que la femme attend beaucoup plus que l'homme le jour du mariage. Pourquoi ? Parce qu'elle est libérée, elle est censée être libérée par son homme. Grand secret. Et là, le cadre, c'est lui qui va libérer en fait le cercle de la vie et qui va lui donner un sens, comme l'homme doit donner un sens dans sa maison. C'est lui qui amène la Torah, c'est lui qui amène le cave dans son monde circulaire. C'est lui qui doit prendre les décisions qui sont bonnes pour la famille. C'est lui qui les conduit vers la lumière et donc il a une responsabilité par rapport à sa femme et à ses enfants. Et il faut qu'il joue ce rôle. Et d'ailleurs, un petit secret, plus l'homme joue ce rôle dans son foyer, plus il est respecté par son épouse. Moins l'homme joue ce rôle dans son foyer, plus l'épouse commence à le dédaigner, à ne plus le voir à sa véritable hauteur parce qu'il ne joue pas son rôle. Exactement comme Israël par rapport aux nations du monde. Si Israël jouait son rôle convenablement par rapport aux nations, eh bien il y aurait respect des nations par rapport à Israël. Tant qu'Israël ne joue pas le rôle du monde et qu'il veut imiter le monde, ça veut dire que l'homme devient comme une femme, eh bien, il y a un dédain des nations du monde, un dédain de la femme, de son homme. Rabotai, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement simple. C'est limpide. C'est clair. C'est sain. Parce que la Torah est saine. Hakav ou bitouy le erkei ha-yosher. Donc, qu'est-ce que le Kav vient nous enseigner? Eh bien, c'est l'expression de toutes les valeurs de la rectiligne divine. On peut le dire avec des mots qu'on a rencontrés avant-hier, Anochi. Le mot Anochi, que Dieu a prononcé, veut dire en hébreu la verticale. Donc je suis votre verticale. Voilà. Vous êtes tous dans un monde circulaire et c'est moi, le maître du monde. Je suis la verticale qui vient vous donner un sens à toute votre vie. Sans moi, votre vie n'est plus une vie. Or, moi, je me dévoile à travers un peuple qui a la même qualité que moi. Il est lui aussi Yachar. Elle, il s'appelle Israël parce qu'il a en lui la droiture de moi-même. Donc, je suis en réalité traversé. Je suis traversé en tant que peuple d'Israël par la droiture divine. Et c'est moi, en tant que peuple, qui amène, qui achemine cette droiture divine à tous mes frères non-juifs. C'est aussi simple que ça, à toute l'humanité. Et si je joue ce rôle, eh bien je suis respecté par les nations du monde. Parce qu'elles attendent une seule chose, c'est qu'Israël joue son rôle de donneur, de direction, de sens, tel que Israël l'a reçu de l'infini, béni soit-il. Et donc, tout le secret que le peuple d'Israël est censé mouler, comme un moule, dans le cercle de la vie. Voilà. Voilà ce que le peuple d'Israël est venu faire dans la vie. Beprinat Adonai Hu Ha-Elohim. Et ça, c'est tout le secret de cet accouplement de deux noms. L'éternel, qu'on appelle le tétragramme, qui est transcendant, qui est lui représentant de cette ligne droite, de ce sens, de cette direction, de cette neshama, il rentre dans Elohim, qui est valeur numérique, la nature. Et donc, lorsque tu as fait la combinaison de ces deux noms, eh bien, tu as amené l'âme dans le corps, tout simplement, et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est qu'on arrive à réaliser cette formule. C'est une formule secrète. Adonai Hu Elohim. Si un jour on vous demande quel est le sens, le secret, la formule de la Géoula, dites Adonai Hu HaElohim. C'est tout. À partir du moment où il y a combinaison de ces deux noms, eh bien c'est fini, le monde est rempli de divinité, de sens, de valeur, de morale, et pas des inventions des hommes. Une valeur divine, une morale divine, une Torah divine, qui vient de l'absolu, béni soit-il, objective et non pas subjective. J'espère que les choses sont claires. On continue. Hakavu Neshama. Voilà, je conclue. Le kav, c'est donc l'âme. Beyachas laguf, par rapport au corps, chez ou beprinat igoul, qui est un grand cercle. Donc notre corps est une femme. Notre neshama, c'est l'homme qui donne un sens à cette femme qui est notre corps. Vous êtes avec moi? C'est tout. Donc quand vous vous adressez à votre neshama, vous vous adressez à l'homme, à la direction. Lorsque vous vous adressez à votre corps, vous vous adressez à la partie femelle qui doit, qui est censée révéler la partie de l'âme. Donc, qu'est-ce que c'est que la Géoula? Le jour où le corps vit aux valeurs, par rapport aux valeurs de l'âme. C'est ce qu'on appelle Gan. Alors là, tu touches le grand jardin. Gan, ce sont les initiales de Gouf et Neshama. C'est tout. Et si ce Gan, ce Gouf et Neshama sont tellement amoureux l'un de l'autre, sont tellement liés, sont tellement délicats l'un par rapport à l'autre, ça devient un jardin délicat. Gan Eden. Gouf et Neshama de Eden. Eden qui veut dire délicatesse. Donc le jardin de la délicatesse. C'est ça le messianisme. Tu deviens de plus en plus sensible aux appels de ton âme pour que ton corps vive à ce rythme-là. Achilouv ben Akav ou ben Aigoul. Donc cette liaison, ce mariage, j'allais dire, entre le cercle et la droite. Vous le rencontrez le jour du mariage, n'est-ce pas? Le doigt et la bague. Le doigt et la bague représentent en fait ces deux formules. Au moment où un homme et une femme se marient, ils forment une petite géoula, alors petit niveau. Vous comprenez? Et si je vais au mariage juste pour aller manger au restaurant, parce que j'attends que la choupa se termine pour aller voir dans quelle table je suis assis, eh bien j'ai raté le mariage. Mais si je vais au mariage pour me faire traverser par la lumière pendant que il y a cet accouplement entre la bague et le doigt, eh bien je sors de ce mariage moi-même marié avec les valeurs de l'infini. Je n'ai pas été au mariage. Je me suis moi-même marié ce soir-là. De la même manière que quand vous allez à une Brit Mila, vous n'allez pas voir comment on coupe un petit morceau de chair à un petit bébé. Vous allez pour faire la kavana, qu'on vous coupe en même temps que le moëlle est en train de couper ce qu'il doit couper, en même temps vous devez subir une coupure de tout ce qui vous dérange dans votre vie et vous vous débarrasser d'un nouveau degré de mal. C'est comme ça que ça marche. Et dans toutes les fêtes que vous allez, si vous ne faites pas la kavana du lieu dans lequel vous vous trouvez, eh bien c'est encore un ratage. Et ça s'accumule, des ratages et des ratages, c'est dommage. Donc, sachez-le, c'est un lien. Et chaque vendredi soir, quand on rentre dans le Shabbat, c'est la même chose. C'est le yosher, le kav qui rentre dans les goulim. Et vous dites, Yom HaShishi, Vayechulu HaShamayim Vaharetz, Vayechulu, c'est les paroles de Kala. Ça veut dire que le vendredi soir, il y a encore un mariage. Khatan vekala. Vayechulu lachon kala. Hashamaim ve'aretz. Donc vous comprenez? Hashamaim, c'est le côté masculin. Eretz, c'est le côté circulaire, féminin. Vechol tsevam. Donc il y a un mariage tous les vendredis soirs. Je peux continuer en vous expliquant que chaque tfila que vous faites, matin, midi et soir, c'est exactement pareil. C'est le yosher qui pénètre les igoulim. Donc il y a des zivugim, selon les kabbalistes, ça s'appelle yichudim ve zivugim. Et c'est toujours yosher ve igoulim. Igoulim ve yosher. Ou ma chechachme asod, Mechanim Beshem Igulim Veyosher. Et donc, quand vous arrivez à cette définition des kabbalistes, tellement connue dans la Kabbalah, Igulim Veyosher, c'est-à-dire les cercles de la vie, de la nature et la droiture divine, bien, Molid et Tatnoa spiralite, ça engendre un mouvement spiralique. Qui va respecter le côté féminin, donc le côté circulaire de la nature, tout en donnant un sens à ce monde circulaire. Ça veut dire que si je regarde en fait à partir du haut vers le bas, eh bien je dois voir un cercle et un point au milieu. D'accord? Et si je regarde de côté, je vois une spirale, comme un kfitz, un ressort. Et en réalité, toutes les sphirotes que vous croyez qui sont à droite, à gauche et au centre, elles ne sont pas plates. C'est en réalité une spirale, elles sont dans cette spirale. Et donc, behabata mimala lemata, si j'observais l'arbre des sphirotes du haut vers le bas, toutes les sphirot qui nous paraissent droite, gauche et centralité ne sont en réalité nimtsaot d'ota spirale. Se trouvent toutes les sphirot sur cette spirale. Seulement, comme c'est dessiné à plat, tu as l'impression que c'est juste droite, gauche et centre, alors que c'est une spirale. Donc, si je regarde en haut, je vois seulement un cercle et au milieu, je vois la ligne qui représente un point. On est d'accord? Milemala, hakol nir eke igul. Donc, d'en haut, tout nous paraît comme un cercle. C'est pour ça que les Ashkénazes, le Shabbat, ils mangent le ke igul. On appelle ça le kugel. Kugel, ça vient du mot ke igul. Selon les kabbalistes, c'est pour ça qu'il y a ça. Et donc, il y a tous des éléments arrondis, comme l'œuf, comme tous les éléments qu'on mange le Shabbat, avec les éléments droits qui doivent rentrer dans ces cercles. Et ça donne tout un secret. Donc, tout ressemble à un cercle, « Echad, asher be'emtsa ito », dont le centre, « Yeshno kav manche », il y a une ligne directrice, « Hanir'e milemala kenkuda ». Ok, quand je le regarde d'en haut, eh bien, je ne vois qu'un point. Vous pouvez un petit peu vous projeter dans l'espace. Donc, c'est facile à comprendre. Moralité, vous voyez, ça c'est la base même de toute la création du monde. Dieu a créé deux forces. Igulim et Yosher. C'est tout. C'est ça le Bereshit. C'est ça le Bet. C'est pour ça que nous sommes dans un monde binaire. Et c'est pour ça que c'est la Bina par lequel le monde a été créé. Donc, Bina a donné le mot binaire. Olam binari. Ça vient de la Bina. Parce que la Bina, elle est bi. Elle est shnai. Et quand Yehuda dit à Yosef, bi Adoni, il lui dit pas bevakasha, slicha, mehila. Il lui dit bi Adoni. Toi, Yosef, représente la ligne. Et moi, Yehuda, je représente le cercle. Donc la ligne est dans le cercle. Donc, Bi Adoni. Donc tu es à l'intérieur de moi. Et c'est là la reconnaissance de Yehuda et de Yosef qui représentent tous les deux le peuple d'Israël et toute la Kabbalah. Vous voyez comment c'est simple? Quand c'est simple, c'est que c'est vrai. Quand c'est compliqué, c'est que ce n'est pas vrai. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est défini par le Harizal? Or pashut memale kol hametziut. C'est la simplicité. Asa Elohim et Adam yashar vehem abikshu lahem cheshbonot rabbi. L'homme nous a créé droit, avec cette qualité de savoir où est le droit. Mais vous avez commencé à faire des comptes et des calculs. Beaucoup de calculs. Vous avez embrouillé la simplicité divine. Alors on vous demande de redevenir simple et vous allez toucher le Mashiach. C'est ça en fait le Mashiach. C'est le retour à la simplicité. Vous avez des questions? Ou est-ce qu'on continue? David disparu? David, es-tu là? Ou est-ce que tu es rentré en phase hypnotique?
Ah, je suis en phase hypnotique complète là.
Alors, est-ce que tu veux qu'on passe à des questions ou je continue?
Si vous pouvez continuer jusqu'à la fin du cours et à l'après, si vous avez encore 15
je
minutes.
sais, je ne sais pas quand est-ce que c'est la fin du cours, je comprends pas. Je sais
midi,
même...
Arabe. Si on peut continuer jusqu'à midi.
Ok. À cave, alors, encore une définition. Le cave, c'est le rêve. Puisque c'est Nekudat HaKholam. C'est-à-dire, si tu as un cave dans la vie, si tu as un sens dans la vie, ça veut dire que tu rêves. C'est très important de rêver. Pas de rêver seulement la nuit quand tu vas dormir. D'avoir des rêves. Simcha, quand tu étais petite fille, tu avais des rêves. Est-ce que tu réalises ces rêves? Est-ce qu'ils se sont éteints? Est-ce que tu ne rêves plus? C'est dommage. Binyamin, Nili, Ariane, Hana, où sont vos rêves? Est-ce que vous continuez vos rêves? C'est très important de rêver. Ceux qui rêvent, c'est ceux qui ont un cave bien, bien éclairé. Et donc, le cave, il est Aïnou Kecholmim. On a une direction, Beshuv Hashem et Shivat Tzion. Josie, il faut avoir un rêve dans la vie. Baruch Hashem. Et ça, c'est le centre et qui fait le rassemblement. Amerakez et Kol Amegamot Kulam. Tous les sens, tous les secrets de ta vie sont à l'intérieur de ce faisceau de lumière qu'on appelle le rêve, qu'on appelle le cave. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est le seul métro funiculaire qui vous amène à la phase messianique, ce qu'on appelle Tachana Merkazit. La Tachana Merkazit, eh bien, vous êtes acheminé, vous êtes amené par la Emouna, vous voyez, c'est tous les mêmes termes, par ce cave. Le cave, donc, est un faisceau de lumière conductrice, conducteur de la lumière droite. A kavu yesodan shel kol ha'tikvot. Donc, le cave, c'est le yesod, le fondement même de toutes les espérances que vous avez dans votre vie. Gabriel, Hana, Chelko ha'elyon. Et étant donné que maintenant nous avons parlé de haut, de bas, de droite, de gauche, alors on peut s'adresser à ce qui est haut et bas dans notre vie. Tu ne peux pas dire, ouais, tout est pareil. Ça, c'est le postmodernisme. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus des nations. Chas vechalila, tu as perdu le cave. Ceux qui ont un cave, ils savent encore ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ils savent encore ce que c'est qu'Israël par rapport aux nations. Ils savent ce que c'est le Shabbat par rapport aux jours de la semaine. Tu n'as pas le droit de confondre tout. Et donc maintenant, puisqu'on s'adresse au haut du cave, à la partie supérieure, donc Chelko Ha'Elyon chez la cave, la partie supérieure du cave, ou Rosho, on va parler de la tête. Donc, quand tu dis roche, ben, tu parles du début du phénomène. C'est très important de savoir qui est le roche, qui était la réchite, qui s'appelle roche. Eh bien, les Chachamim nous disent, n'oublie pas que Israël s'appelle roche. Israël s'appelle roche. Rashi nous dit... Bizrout Israël chez Nikre ou Roche, Réchit, Bara Elohim et Hashamaï Vetaharetz. C'est via Israël, Bashvil Nikra Israël, Shvil. C'est par le biais, par le chemin que représente Israël que Dieu fait acheminer ses valeurs dans le monde. Donc on doit savoir qui est le Roche. Chelko atarton, mais il faut savoir aussi où se trouve le bas. Où se trouve le bas du cave? Qu'est-ce que c'est que le bas du cave? Eh bien, c'est le but à atteindre, c'est la tachana sofit, qu'on appelle aujourd'hui à l'aéroport le terminal. Donc, terminal Echad, terminal Shalosh, c'est quoi? Ben, c'est la fin du cave, c'est là où tu dois arriver. On crée le koa tarton, nimshach at karov le nekudat merkaz echalal. Eh bien, on va aller jusqu'au presque, on va toucher le centre du centre du centre de ce grand ballon du Tzimtzoum dans lequel le monde existe maintenant. Alors, où ça se trouve tout ça? Eh bien, regardez jusqu'où la définition, la résolution des Chachamim arrive. Nous disent les Chachmei à Kabbalah, ce point central, il est au-dessus de Har HaBayit, au-dessus de Even HaShtia. Ça veut dire que à 50 cm de haut de Even HaShtia se trouve le point central du Yosher qui est le centre du centre du centre de tous les goulim, de toute la création, de tout le cosmos, de tous les halalim, que ce soit la voie lactée, que ce soit les autres voies, tout le centre de tout ça, c'est là. Donc vous habitez au centre du monde. Et ceux qui habitent à Yerushalayim, ils habitent dans le centre du centre. Et ceux qui vont au côté de la Maharabi, ils sont à quelques mètres, physiquement, du centre du centre du centre. C'est de là-bas, de ce point-là, que se fait le contact entre l'infini et le fini. C'est là-bas que passe le Yosher et qui descend dans tous les Igoulim de notre monde. Elle est belle? C'est magnifique. Vous rendez compte la force que c'est? Sham merukazot ha'informatia merukazet ha'informatia anechutza ba'ot. C'est là-bas où est rassemblée, concentrée toute l'information nécessaire pour la suite. Donc, quelqu'un qui veut écouter les informations, il doit aller là-bas. C'est de là que sortent les informations. Ce n'est pas par hasard qu'il y a marqué Kol Israël Mirushalayim, Shalom Rav. Shah, Temesre, Veine, Hadashot, La Olam Kulo. Tout vient d'ici, Kol Israël Mirushalayim. Même ceux qui ne veulent pas, ils savent que ça vient d'Yerushalayim. Malgré eux. L'argent. Extraordinaire. Donc vous comprenez que maintenant nous avons un seul truc à faire. C'est de savoir capter le cave, de demander un cave. Quand j'étais petit, on nous donnait un téléphone, l'appareil, hein, et on attendait 2 mois pour avoir le cave. Alors on avait l'appareil et on le regardait. Il n'y avait pas de cave en Israël. Mais dès que tu avais le téléphone, tu appelais toute la shrouna. « Yesh li téléphone !» Alors tous les voisins venaient voir le téléphone, ils étaient admiratifs devant ce téléphone. Aujourd'hui, tu te dis « Maze a dinosaure, maze !» C'est quoi ce dinosaure? Mais c'était la folie. Mais alors, quand il y avait le cave, c'était la fête. Yesh li cave! Aujourd'hui, vous avez un cave tout de suite. Vous ne vous rendez même plus compte. Vous savez ce que c'est que d'avoir un cave? Ani cholit kasher elayich! Waouh! A cave ou bitou leit pashtut haor? Eh bien, ce faisceau de lumière, c'est l'expression même de l'épanchement de la lumière divine. C'est par là que la lumière se répand. C'est par là que sa lumière se déshabille. Mitpachet. Écoutez bien la terminologie en hébreu, c'est incroyable. Haor mitpachet mil levushav. La lumière sort de ses vêtements qui cachent pour se dévoiler. Donc on appelle ça les hitpachet, comme se déshabiller. Ça veut dire que dans le pshat, on attend cette hitpachet. Quand tu étudies le pshat de la Torah, on attend que tu m'enlèves les vêtements pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce que sans savoir ce qu'il y a dedans, tu ne peux pas te relier au pshat. Remez dans la Kabbalah, quand on est lié homme et femme, il faut se déshabiller. Et c'est là où en réalité tu vas sortir toi-même. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile. Ne vous inquiétez pas, c'est ma Siri qui s'est mise en marche, elle a eu peur. Des fois, elle croit que je lui parle. Alors, on me dit, Loé Vantima Tarotse. Anime Vinci Loé Vina. Donc, le cas, c'est l'expression du dévoilement de la lumière. Ouver Derecha Einaim. Et ce cave-là passe à travers les yeux. Derecha Oznaim Hachotem Veape. À travers les oreilles, à travers les narines et à travers la bouche de qui? Chez Adam Kadmon. Nous voici revenus à Adam Kadmon. Alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant concernant le cave, vous pouvez l'appeler Adam Kadmon, ou bien la Torah, ou bien Israël, tout est vrai. Maintenant, on va expliquer comment, à travers ce cave, d'où elle va sortir cette lumière. Alors, pour être un tout petit peu plus cohérent, les kabbalistes vont nous donner un exemple, comme s'il s'agissait d'un homme droit, qui a des yeux, qui a des oreilles, qui a des narines, qui a une bouche, et il va nous expliquer comment cette lumière divine qui vient de l'infini passe par le début du trait, du yosher, et va se dévoiler au monde circulaire par tous ces orifices que je viens d'indiquer. Et vous comprenez bien que chaque orifice est différent, parce que la lumière qui sort est différente, alors que la lumière est toujours la même. Seulement, le filtre est différent. Donc, la lumière va sortir avec la couleur du filtre. Alors, la même lumière, quand elle va sortir de l'oreille de Adam Kadmon, on va s'appeler lumière d'oreille. Mais c'est toujours la même lumière. Et quand elle va sortir par les yeux, on va l'appeler même lumière, mais des yeux. Même lumière des narines, même lumière de la bouche, même lumière des doigts, et ainsi de suite. Même lumière du nombril. Et donc, chaque élément filtre que je viens d'indiquer, les oreilles, les yeux, tout ça, c'est des filtres, vont donner, vont colorier la même lumière de départ, seule et unique, sous différentes couleurs, pour nous apparaître dans le monde avec des nuances différentes. C'est clair? C'est tout. Imaginez-vous la lumière du soleil qui traverse et qui rentre dans votre pièce, dans la salle à manger. Seulement, une lumière est peinte en bleu, une fenêtre, pardon, est peinte en bleu, une autre fenêtre peinte en jaune, une troisième fenêtre peinte en vert. Eh bien, sur le sol, devant la lumière qui passe par la fenêtre bleue, vous allez avoir une tache bleue sur le sol. On est d'accord? À côté de la fenêtre qui est teinte en vert, vous allez avoir la même lumière dehors, elle n'a pas changé, mais vous allez avoir une tache de lumière verte. Et à côté, une tache de lumière jaune, et ainsi de suite. C'est pour ça que dans notre monde, on voit des milliards et des milliards de teintes, on voit des milliards et des milliards de formes d'apparition, des milliards et des milliards de détails, de nuances, de lumière, alors qu'il s'agit de la même seule et même lumière au départ. Parce qu'elle passe à chaque fois par des filtres différents qui vont lui donner des couleurs différentes. Si vous avez compris cela, Rabotai, vous êtes déjà très avancé dans le monde de la Kabbalah. Et c'est pourquoi je rappelle la notion essentielle « Ani Adonai lo shaniti ». Chez moi, pas de changement. Tous les changements, c'est que par rapport à vous qui recevez mon expérience avec votre façon de voir. C'est tout. Et donc, là, je suis en train de donner un cours, et je vois que grâce à Dieu, ça a augmenté le nombre multiplié par deux. Eh bien, autant de gens qui sont en train d'écouter le cours et de me voir sont traversés par ma parole, la seule, j'en ai qu'une seule, mais à différentes manières. Donc, si je vous demande maintenant tous d'écrire ce que je viens de dire dans ce cours, j'aurai autant de différences parce que chacun a appréhendé le même cours par son prisme à lui. C'est tout. Et c'est comme ça qu'il faut voir toute la nature, toute la vie. Vous regardez votre jupe, votre robe, votre canapé. Tout ça, ce sont des dévoilements du divin à différents niveaux. Donc, le canapé, c'est la lumière divine sous forme de sky ou de cuir. C'est tout. Qui a été cousu par un homme qui a donné l'apparence de ton canapé sur lequel tu es assise maintenant. Et notre corps et tout le reste, c'est la même chose. Ce sont des dizaines et des dizaines de membres qui dévoilent la même lumière avec des degrés différents. Et chacun a un autre rôle. Comprenez comment ça marche. Et donc, Medubar be'anhagot shonot, il ne s'agit que de conduites différentes, mais pas de sources différentes. Une seule source, des millions de conduites. On est d'accord? Roselyne, on est d'accord? Ok. Kol ha-shinuim, donc tous les changements, tlouim ha-yecholet le'achil et ha-or ha-mitpashet. Tout est en réalité, les changements ne sont que fonction de notre capacité à contenir cette même lumière. C'est clair, Léopold? Donc, moralité, on a tous affaire à la même lumière. Donc, quel est le point commun entre nous? Cette lumière. On est d'accord? Or, cette lumière, c'est l'essentiel de tout, c'est 99,99999. Tous les détails de ce monde ne sont que 0,00000000001. Rien du tout. Ça veut dire que j'ai plus de points communs avec toi que de différences. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On a tellement peu de différences. On a tellement de points communs parce que tout est divin. Et si on arrivait à cette compréhension, je pourrais plus avoir de haine pour mon voisin, pour ma voisine. Je peux plus avoir de la colère. Je dois comprendre la vie. Je peux plus tuer un animal. Je peux plus avoir une conduite qui est pas claire. Parce que tout est divin, révélé par différents degrés. Itna agut holemet. Donc, quand je me conduis, moi, en tant qu'homme, avec mon libre arbitre, d'une manière fidèle à cette lumière, ça s'appelle une itna agut holemet. C'est-à-dire une conduite adéquate. Quand j'ai une conduite adéquate qui est fidèle à la lumière divine qui me traverse, eh bien, je vais être traversé par une lumière divine beaucoup plus grande parce que je suis dans le même genre que lui béni soit-il. Vous comprenez? On est dans le même, dans la même catégorie quelque part. Je m'assimile à lui. Je fais en sorte d'être comme lui, tant que je peux, au maximum de mes possibilités. Eh bien, il me traverse de plus en plus. C'est clair, Simone? Gavana or mishtane, donc quand il y a une nuance de lumière qui change, eh bien, elle ne change pas à sa source, elle change selon celui qui est dans l'expérience, celui qui est spectateur de l'expérience. L'expérience ne change pas. C'est le spectateur par rapport auquel l'expérience va avoir une différence comme si elle avait changé. Et aujourd'hui, dans la science, c'est très connu tout ça. Chaque élément qui regarde l'expérience, pour lui, seulement pour lui, l'expérience est X. Celui qui est à côté de lui, la même expérience devient Y. Et le troisième, la même expérience devient Y, Z, et ainsi de suite. Vous comprenez pourquoi un vrai Rav ne peut pas donner à deux personnes qui posent la même question de Halakha la même réponse. C'est pas possible. Parce que si c'est un vrai Rav, il doit savoir à qui il est en train de parler. Et si je parle à Myriam, je ne peux pas donner la même réponse que je donne à Simcha. Parce que Myriam, en ce moment, elle est dans tel et tel état. Et Simcha, elle est dans un autre état. Et Patrick et Richard, ils sont aussi dans un autre état. Je ne peux pas répondre la même réponse. Sinon, ça veut dire que je ne comprends rien. Je lis un bouquin et je répète. Ah, c'est comme ça la halakha. Mais pas du tout. Et si la personne qui te parle est malade? Et si la personne qui te parle n'est pas capable de faire ce que tu lui dis maintenant parce qu'il y a X raisons? De quoi tu parles? Donc ça devient très délicat, mais très intelligent en même temps. Donc tout change par rapport au kelim, aux ustensiles, à poalim, à l'avkemassach. Donc ce sont tous des écrans. Je vais le dire au pluriel, kemsachim, qui sont en réalité par rapport à cette lumière. Donc nous sommes tous des écrans qui changeons l'expérience par rapport à nous-mêmes. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions?
Ravi El Todaraba. Alors oui, il y a quelques questions, Arav. On commence tout de suite. Je réouvre le micro. Arav Messan, Rabbi Messan.
Oui.
Shalom,
mon camarade Arav, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous venons de vivre un événement grandiose, qui est le don de la Torah. Au travers de votre cours, j'aimerais vous poser deux questions. Vous savez, Rachid nous dit dans Ézéchiel 19, verset 1, de là-bas, que tout le peuple doit se conduire comme Ish Ehad, Belev Ehad.
Tout à fait.
Pour pouvoir un recevoir
seul
la Torah,
avec un seul cœur.
Ouais, pour recevoir la Torah, tout le peuple va se comporter ou se conduire comme un seul homme et un seul cœur. Et quand on retourne un peu pour la préparation, on voit qu'on a quitté l'état animal pour arriver à l'état Adam, pour pouvoir recevoir la Torah. Est-ce la préparation du Kéli que nous sommes pour pouvoir recevoir ce cave qui est la Torah, qui est ce faisceau que nous avons reçu? Et hier, voilà.
Alors d'abord, merci pour votre question, Rabbin Messan. Je répète la question. Nous avons fait une évolution entre la sortie d'Égypte, durant laquelle nous étions comme des animaux. Et c'est pourquoi nous mangions un repas, qui est un repas animal, c'est-à-dire l'orge. Et on a demandé à devenir des hommes. Et à Shavuot, on ne mange plus l'orge, on va manger la chita, c'est-à-dire le blé, qui est déjà un aliment pour humain. Donc il y a ici une évolution. Cette évolution de l'état animal à l'état humain, ça va nous rapprocher de ce que nous sommes dans notre identité. Et non seulement ça, nous devons connaître le point initial de toute cette humanité qui s'appelle Israël. Donc, tant que nous ne sommes pas tous, en tant que détail, collés à ce point, ça ne marche pas. Et c'est ce que nous avons arrivé. C'est ce que nous avons fait. Nous étions Ish Echad, comme un seul homme, avec un seul cœur. Ça veut dire qu'on a tous touché le point essentiel, initial. Et c'est pour ça qu'on a été à l'écoute, tout simplement. L'écran s'est ouvert.
Alors, question de Félicia.
Zak à vous. Félicia, shalom.
Boker tov rav, mamash toda. Et ma question, j'étais frappée par votre explication de Gan, Gouf ve Neshama. Et dans cette lumière qui traverse, cette Neshama qui traverse le corps, et le corps dans sa marzoriyut, dans son igoul, be'etzem. Qui est et où se trouve la maladie.
Bien fait. Quand le kav traverse convenablement, complètement, toutes les parties du corps qui sont le igoul, plus de maladie. C'est pour ça qu'au moment du don de la Torah, il n'y avait plus de malades, il n'y avait plus de morts. Tous les malades ont guéri instantanément. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est toutes les parties du corps qui, à un moment donné, ne sont pas traversées par la lumière du cave. C'est tout.
Comment pouvons-nous agrandir alors cette capacité de ces organes qui sont igoulim?
Ça fait partie d'une des manières que j'ai aussi, avec toute humilité et avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, de soigner. J'ai reçu de mon maître une capacité d'Akadosh Baruch Hu de soigner et je soigne avec cette méthode-là. C'est-à-dire que je réhabilite le membre dans lequel la lumière n'a pas assez traversé pour faire traverser ce membre-là qui est malade par la lumière divine et ce degré-là se régénère. Il revient à la vie. Et le fait que vous posiez la question maintenant, c'est déjà un réveil à cela. Et c'est très bon. Mais ça s'apprend. Je travaille dans ce sens-là. Et Be'ezrat Hashem Akadosh Baruch Hu me permet d'aider les membres de mon peuple.
Et une autre petite remarque grave. La lumière de Shabbat que nous ramenons vers ces igoul, cette lumière qui est anochite, vers le corps. Donc, c'est ça, cette capacité
de... Tout à fait. Et vous allez chercher la lumière. Je vous ai dit qu'elle était à peu près à 50 cm au-dessus du Harabait. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit ça?
Nahon.
Ben, c'est juste pour ça que vous levez le verre du Kiddush un tout petit peu au-dessus de la table pour aller capter cette lumière. Et une fois que vous l'avez captée, vous la buvez et vous la donnez à tous ceux qui sont autour de vous qui se remplissent de vie.
Ashrecha.
Alors, question de Chava et toi aussi, Chava et Chavod.
Bonjour Rav, merci beaucoup pour ce cours magnifique. Je pense que ma question, elle rejoint celle de Félicia. Est-ce qu'un dysfonctionnement d'un des sens, oreille, vue ou autre, est la conséquence d'une mauvaise réception de cette lumière, ou bien est-ce que la lumière arrive correctement, mais elle est modifiée à cause du dysfonctionnement du sens?
La deuxième version, c'est qu'au départ, tout est bon, mais par un regard interdit, par exemple, d'une chose interdite, par l'écoute du Lashon Hara, eh bien, l'oreille, l'ouïe, se déforme, elle n'arrive plus à capter la lumière divine. Donc, en réalité, les gens à qui on explique ces choses-là, de cette manière-là, ils n'ont plus envie de fauter, pas parce que c'est assourd de faire du Lashon Hara ou d'entendre du Lashon Hara. C'est tout simplement qu'ils se font des dégâts eux-mêmes pour ne plus être traversés par la lumière. C'est un gâchis.
Alors, question de Benjamin.
Il y a un moyen de réparer. Quand même.
Il y a un moyen, prise de conscience, instantanément. Vous dites maintenant, en direct, je prends sur moi, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu Bli Neder, d'arrêter de faire tout ce qui peut détériorer mes sens. C'est tout. Dites-le maintenant, comme je viens de le dire. Et vous êtes déjà dans le cheminement de la tchouva, vous êtes déjà en train d'être traversé à nouveau. C'est instantané la tchouva. Ken.
Question de Benjamin. Benjamin, d'accord. Alors, alors on attend les deuxièmes questions. Vous relevez la main et vous avez, parce qu'il y a beaucoup de questions et j'ai peur que le rêve n'est pas au bout. Du coup, on laisse la parole à tout le monde. Benjamin Bechavod.
Je pense qu'on s'en va.
Benjamin, on ne vous entend pas, votre micro est éteint. Je vous propose de passer à Simcha en attendant. Simcha.
Oui, bonjour. Bonjour, Raf, et merci beaucoup, Raf Yoel. Quand vous avez parlé de la lumière des yeux et de la lumière du nez et de la lumière des oreilles, est-ce que c'est ce qui correspond aux ondes dans le langage
Et il y a aussi des vagues, il n'y a pas que des ondes, il y a aussi des vagues, il y a plusieurs interprétations des degrés, mais on peut parler en fait de galim, d'ondes, qui vont venir, parce que le mot gal, qui a donné naissance aux ondes, ça veut dire une vague. Donc des galim en hébreu veut dire aussi des giluyim, des dévoilements. Donc chaque vague, chaque dévoilement est en réalité comme une nouvelle vague qui vient dans le bord de notre vie.
Benjamin Bechavod.
Ken, שומעים אותי?
Ken.
Ken, בוקר טוב הרב, שלום.
Shalom.
Je voudrais revenir au début du shiur, vous avez parlé du principe que vous avez, que la droiture peut être dans la nature du self, on va dire Hashem ou Elohim.
Ken.
Et pour expliquer ça, vous avez donné plusieurs exemples, le peuple, enfin, c'est le peuple d'Israël qui a cheminé la droiture des villes dans la nation, que l'homme au sein du foyer, a cheminé la droiture au sein du foyer, par rapport à la femme qui reçoit.
Pardon ? Quelle est la question, oui ? Allô?
Oui. Alors, pourquoi je vous pose
la question?
Vous avez donné comme exemple que lors du mariage, la question, c'est si vous avez un éclaircissement. Vous avez dit que dans le mariage, c'est pas une question, c'est un éclaircissement. Pourquoi la bague autour du doigt de la femme, alors que c'est l'homme qui a chiné la droiture?
Je vous l'ai demandé.
Comme au niveau du zivou, c'est l'homme qui pénètre la femme. Simplement. Pourquoi, au niveau du mariage, c'est pas la femme, c'est pas l'homme qui pénètre le doigt dans la bague de la femme.
Cher ami, avant d'être marié, on est tellement perturbé qu'on est homme et femme. Pendant le mariage, l'homme redevient homme et la femme redevient femme. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner à l'homme, ce qui lui appartient?
Oui.
Elle va lui dire, c'est toi le doigt. Et lui, il va lui dire, mais c'est toi la bague. Donc, il va lui redonner ce qui lui appartient. Vous comprenez? Chacun redonne à l'autre son rôle. À partir d'aujourd'hui, toi, tu seras le cercle. Il lui dit Alpha. Et elle lui dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas donner la direction.
Parce qu'avant, il y avait un bilboule.
C'est pour ça qu'il y a marqué Motsi Asirim Bakosharot. Vous êtes attaché avant d'être marié. Vous ne comprenez même pas où vous êtes. Tout s'est mélangé. L'homme et la femme que tu es ne savent plus comment gérer les choses. Mmh. Et le jour du mariage, c'est une remise en seder. C'est pour ça que ça s'appelle seder ou pas avec Hidushin.
Alors, question de Mira. Mira Schneer.
C'est
toujours pareil.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mira Bechavod.
Ah oui, Arabe, deux choses. D'abord, d'où vient le texte que vous lisez?
Le texte que je lis vient de Yoel Ben Arosh. C'est moi qui l'écris.
Ah, c'est pas de rapport.
C'est un futur livre, Be'ezrat Hashem.
On va l'avoir, on va le recevoir.
Si Dieu veut, on va le recevoir.
Ok, parce que c'est plus complet. Et alors, encore une petite question. Je ne peux pas différencier vous parlez des yeux, des oreilles. Pour moi, ça m'a l'air un peu trop précis. Pourquoi ne pas parler de l'âme de l'homme? Toute la lumière qui m'arrive vient par mon être, pas spécifiquement par mes yeux ou mes oreilles.
Justement, étant donné que cette lumière doit passer pour être reçu. Le but, c'est d'être reçu, ce n'est pas de passer. Donc, pour être reçu, il faut qu'il y ait différents filtres qui réduisent de plus en plus la lumière. La lumière qui va passer des yeux est très grande encore. Donc, on va descendre encore de niveau, on va passer par les oreilles, après on va passer par les narines, après on va passer par le nez, après on va passer par les membres. Donc, la lumière doit se mesurer. Au fur et à mesure que tu grandis, toi, tu peux capter le degré supérieur. Quand tu étudies la Gemara, tu parles déjà des oreilles. Donc, quand tu dis à ton copain, viens étudier la Gemara, tu lui dis, viens et écoute, comme c'est écrit dans la Gemara. Mais quand tu étudies le Zohar, tu ne lui dis plus, viens et écoute, tu lui dis, viens et vois, parce que tu es monté de niveau de perception. Vous comprenez?
Oui, merci.
Araf, question de Yuprevet.
Ravoyel Shalom. Pourquoi on appelle le Kav Kav? Puisque dans le Vav, il y a déjà. Dans le Vav, il y a déjà les six directions. Qu'est-ce que le Kouf ajoute au Vav?
Tout simplement, le Kav de donner la racine du mot Ikavu. Ikavu, que nous avons vu dans Bereshit, qui veut dire rassemblement, qui a donné naissance au mot Mikve et qui a donné naissance au mot Tikva. Et donc, c'est le Kouf et Vav ensemble qui forment ce Kav. Même si moi, je vous ai dévoilé après qu'on peut le voir d'une manière codée dans le Vav seulement.
Alors, question de Chava. Chava.
Oui, alors justement, par rapport aux aliments, c'était par rapport aux aliments qui sont créés par l'homme. Par exemple, un steak qui ne provient pas d'un animal et qui va être créé par une machine, comme on a vu dernièrement. Est-ce que cet aliment il contient du divin ou est-ce c'est que
vadaï.
C'est
vadaï. Et d'où vient la matière première par rapport à laquelle l'homme est passé dans la machine pour faire? Il y a bien une matrice, il y a bien une molécule. Cette molécule elle est remplie de divin, c'est comme un clone. C'est pas parce qu'on a greffé le cœur de quelqu'un chez quelqu'un d'autre ou bien on a cloné que le clonage n'a pas de divin. Ça part toujours par un élément existant. On n'est pas dans la création, on est dans la transformation. On n'est pas des créateurs, on est des transformateurs d'existence. C'est tout.
Alors du coup, ça serait une période intermédiaire, donc ça serait bon, parce qu'on n'aurait plus à tuer un animal pour manger un steak, par exemple.
Tout à fait. Non seulement on n'aura plus besoin de tuer un animal, mais on pourra mélanger la viande et le lait et manger un steak fromage.
Arav Yoel, toda rabba, shavua tov.
Toda rabba lachem, shavua tov.
Toda rabba.
Toda rabba, meod meod.